Cette chronique vous est présentée par l'entreprise Branche d'Or. En affaires depuis 1984, Branche d'Or produit et transforme plus de 18 variétés de plantes et de résineux en huiles essentielles et produits naturels.
Comme on le fait chaque deux semaines, on accueille Denis Côté pour parler forêt, la découvrir autrement. Denis, bonjour.
Salut.
Aujourd'hui, Denis, on parle d'un terme qu'on entend régulièrement, la forêt mixte. Ça, oui. On l'entend. On pense comprendre ce que ça veut dire, mais commençons par une définition. C'est quoi la forêt mixte? Parce que je suis pas sûr que tout le monde a peut-être la même image en tête.
Non, la forêt mixte, je commence à l'expliquer, c'est quoi une forêt résineuse? Résineuse, c'est quand tu as 75% de ton volume, donc du pin et du sapin. À l'autre extrême, c'est le feuillu. Pour appeler ça une forêt feuillue, c'est 75% chêne, bouleau, érable. Puis la forêt mixte, c'est n'importe quoi entre les deux.
Ça ratisse large.
Vous allez voir pourquoi que je vais donner beaucoup d'informations pour voir pourquoi ça ratisse si large que ça. Puis est-ce que c'est si un mythe ou une réalité? Fait que vers la fin, là, on va s'en aller vers mythe ou réalité. Mais bon, je ne vous donne pas la réponse tout de suite.
Bon, parfait. Donc, cette forêt mélangée là, dont tu parles, le mélange un peu quelque part entre les deux, c'est ce qu'on a dans la région, dans le fond. C'est ce qu'on peut voir si on va marcher en forêt.
Oui. J'ai décidé de changer le titre tranquillement, de forêt mixte, j'ai appelé ça forêt mélangée. Puis je vous donne une partie de la réponse. Maintenant, j'appellerai ça forêt de plusieurs types de forêts ou mélange de forêts.
Comme des petites forêts dans la grande forêt?
Exactement.
OK.
T'as pogné mon...
C'est comme ça que tu le dessinerais là, pour qu'on
pogné la feuille, vas-y,
oui, c'est ça.
On va m'en sortir.
Parfait.
Fait que je donne un exemple pour les gens. C'est un peu comme, t'aurais une belle forêt de pin, comme à la forêt de l'Aigle. Tu as du beau pin, tu as du sapin, mais juste 3 hectares. Moi, je serais content d'avoir ça. Tout autour, tu aurais une belle forêt d'érable, comme un beigne, un peu comme la baie Mat, là, ou les érablières de notre coin. Encore là, 3 hectares, ça donnera 6 hectares. Mais pour classer un peuplement, ça prend 4 hectares. Fait que 2 fois 3, ça ne classe pas un peuplement.
Okay.
Fait qu'on aurait une belle, super belle forêt de pin et de chêne, puis on appellerait ça une forêt mixte, forêt mélangée.
Parce qu'on n'atteint pas le 4 hectares.
On n'atteint pas le 4 hectares qui sont des normes. Fait que, je rappelle, la foresterie, c'est bien le fun, mais c'est très, très, très normé. Si tu n'as pas de normes, tu ne sais pas où tu t'en vas. Puis ça, ça en est une norme plate. Fait que sur une carte, tu achèterais un beau terrain, ça serait marqué forêt mélangée. Tu arrives là, tu dis que c'est ça, du chêne puis du pin.
Ouais, tu tournes à gauche, c'est que du pin. Tu tournes à droite, c'est que des chênes.
Mais les deux ensemble, ça donne une forêt mélangée. Fait qu'on est un petit peu désavantagé pour ça.
Puis ça, on le voit beaucoup, là, pour faire de la randonnée dans les sentiers du Perrault. Il y a plein de sentiers. On arrive dans un secteur, c'est que du cèdre. Puis là, on marche un peu, on arrive dans un autre secteur, c'est que des érables, mettons. Puis
je vais passer 4 phénomènes qui ont forgé. Mais avant ça, je vais vous donner les statistiques à grandeur du Québec pour se placer.
Oui, parce qu'on a nos forêts ici, mais on se situe où? Parce que oui, c'est quelque part entre les deux, 75%, là, mais par rapport au reste du Québec, nous, on se trouve où là-dedans?
On est la région qui a le plus gros pourcentage de forêts mélangées au Québec.
Okay.
C'est une réalité, c'est vraiment mélangé. Dans tout le Québec, c'est 40% de forêts mélangées. Dans l'Outaouais, 34% à cause du sud qui est très feuillu. Puis nous autres, 52%.
De la vallée de la Gatineau?
La vallée de la Gatineau. Toute la vallée de la Gatineau, forêt publique, là, des grandes forêts publiques. Ce qui fait, c'est beaucoup. Il n'y a pas d'autres régions qui ont ce pourcentage-là. J'ai été voir sur les 104 MRC au Québec, on est la seule qui ressemble à ça. Les autres MRC sont plus rondes. Au sud de Montréal, c'est toute la même affaire. Au nord, en Gaspésie, c'est tout le même écosystème. Fait qu'on a tellement d'écosystèmes différents, on va le voir, que ça fait qu'on a 52% de forêts mélangées. Mais je rappelle, votre forêt mélangée, ça peut être du pin puis du chêne aussi.
Oui, ça peut être des beaux mélanges.
des beaux mélanges.
Mais pourquoi ici, Denis? Qu'est-ce qui fait en sorte que dans la vallée de la Gatineau, on est unique par rapport à ça?
J'ai sorti 4 phénomènes. Je les nomme rapidement, ensuite on va les repasser. Les zones de rusticité, ça va intéresser les amateurs d'horticulture. Le bioclimatique, le sol, qui est mon activité préférée, puis les activités humaines. Je repasse chacun d'eux autres.
Oui, on va les expliquer.
Ça va donner... Oh oui, personne n'a compris de toute façon. On va passer chacun, vous allez voir que c'est ça qui a créé. C'est ça qui a forgé ou fudgé la forêt mixte.
Bon, commençons par les zones de rusticité. Là. Donc, ça, d'habitude, on s'en sert quand on veut se planter des belles plates-bandes, puis on veut savoir si notre plante est compatible avec notre terrain. Là.
J'ai une grande nouvelle pour vous autres. Tout a changé.
Hein?
Le gouvernement fédéral, à tous les 10 ans, refait ses zones de rusticité, puis on a toutes dans la région, là, on a toutes monté de 50 km.
OK. À cause du réchauffement climatique.
Okay. Ce que ça fait pour nous autres, c'est que tout le feuillu est plus adapté qu'un résineux. Un jour, le feuillu va tout manger le résineux. Là. Si ça continue à se réchauffer, ça n'existera plus le résineux. Le feuillu, c'est une plante beaucoup plus évoluée. Fait que le feuillu va manger le résineux. Fait qu'on on a un changement de feuillu à résineux naturel. Fait qu'une belle forêt résineuse, on attend encore 30 ans, elle va être feuillue.
OK.
Fait que ça l'a changé. Maintenant, on a trois zones. On en avait 5 avant. 3A, 4A, 4B. Ça veut dire qu'un exemple, Maniwaki, ici, là, on était dans le 3B. Là, vous êtes dans le 4A. Fait que ressortez vos catalogues.
Oui, c'est ça. On peut magasiner.
Vous pouvez magasiner. Vous allez rester surpris. Il y a le double de plantes dans les pommiers et dans les plantes vivaces. Il y a le double de plantes disponibles entre
qui peuvent vivre
3B
ici.
Et 4A.
Puis le fait que notre région est très nord-sud, ça fait en sorte qu'il y a un peu de tout. Parce que je veux dire, c'est ça. Là, notre région, c'est une ligne là, verticale. Là.
Même la ligne 3B, elle va jusqu'au nord de Grand-Romeu.
Quand même.
Avant, c'était 2B. Les autres, ils ont grogné deux zones.
Wow! C'est beaucoup, là.
C'est beaucoup. En général, j'ai fait un calcul rapide avec ma petite règle. Là, c'est 50 km qu'on a tous gagné. Fait que c'est positif si tu veux planter des pommiers.
Oui.
Mais c'est un peu négatif si tu veux que ta forêt reste résineuse. Elle va devenir feuillue tranquillement. Puis c'est aux 10 ans qu'ils font ça.
OK. Fait que là, on est au début d'un nouveau cycle.
Là. En 2025, on a sorti les cartes. Fait qu'on a encore pour un autre 10 ans. Probablement qu'on va gagner un autre 50 km.
Bon, ça, c'est pour les zones de rusticité. Ça explique en partie cette forêt mélangée que nous avons. Tu as parlé des domaines bioclimatiques. Ça, c'est quoi?
Ça, c'est après... le dernier glacier a fondu il y a 12 000 ans. Fait que, il y a 12 000 ans, il y avait 4 km de glace en haut ici. Mm-hmm. Fait que, c'est le fun de voir ça. Là. Puis après ça, les arbres se sont établis en fonction de la fonte des glaciers. Fait qu'il y a eu des bioclimatiques. Fait qu'on a 40 % qu'on est dans l'érablière à tilleul. Dans mon reportage sur les érablières, je dis que c'est très intéressant parce que ce tilleul, c'est une belle essence pour accompagner les érables. Puis il y a 60 % qui est l'érablière à bouleau jaune. Ça, c'est un petit peu plus froid. Puis tout le nord, c'est la sapinière à bouleau jaune. Fait que déjà, j'ai pas retrouvé d'autres places au Québec que Namersa avait plus que deux zones bioclimatiques. Fait que ça fait beaucoup de brasses camarades.
Oui, c'est ça. Ça ajoute des variables.
On appelle ça l'effet de bordure en science. Plus tu as d'effet de bordure, plus c'est dynamique ou biodynamique.
Quand tu parles d'effet de bordure, c'est quoi? C'est qu'on est près d'autres choses?
Une sorte de forêt avec une autre sorte de forêt, okay. À la limite...
entre deux zones proches.
Entre deux zones proches. Puis ça, on additionne les lacs, les ruisseaux puis les rivières.
Qui créent des microclimats.
Qui créent des microclimats en entour de chacun. C'est incroyable. J'ose même pas calculer le nombre de petits peuplements que ça peut donner.
Bon, ça, c'est pour les domaines bioclimatiques. Tu as parlé des différents types de sols, parce qu'on en a aussi de différents types partout dans la MRC.
Oui, là, c'est le fun. Parce qu'on a encore trois types de sols, mais je n'ai pas trouvé d'autres régions qui avaient trois types de sols. Quand le glacier a fondu, en 12 et 10 000 ans, il a créé la mer Champlain.
Mm-hmm.
Okay. La mer Champlain, là, c'est Maniwaki, Bouchette, Mont-Cerf. Où c'est qu'elle est ça de l'Aiseux? Maniwaki, Bouchette, Mont-Cerf. Fait que la mer Champlain est restée là pendant peut-être 2-3 000 ans. Ça a créé de la glaise. En passant, il n'y a pas de terre noire en Haute-Gatineau. Quand on dit de la terre noire, c'est de la glaise. C'est du limon. Fait que ça a créé un écosystème qui représente 10 %. On est assez populaire en grandeur du Québec que cet écosystème-là de sol s'appelle des sols Bouchette puis des sols Mont-Cerf.
OK.
Fait que tu peux être en Estrie, puis ton sol, il s'appelle du Bouchette.
Où il y avait aussi la mer de Champlain, puis aussi il y a de la
glace. La mer de Champlain aussi. Là, ben. Fait que la mer de Champlain a suivi la rivière Gatineau, a sauté deux, trois étapes, s'est ramassée en Abitibi. On a aussi les sols sablonneux.
Mm-hmm. Ça, on le voit
on
beaucoup.
On va nommer Messine, Aumont, Casabazois. Ça, c'est le glacier, le bord du glacier, on appelle ça le haut du glacier. Ceux qui connaissent les esquerres, c'est là-dedans que l'eau se cache.
Mm-hmm.
Ça, c'est environ... 25 à 30 de nos sols. Fait que quand tu as deux sols qui se touchent, encore là, les arbres changent. Fait que mon histoire de pin et de chêne, les deux ne poussent pas sur le même sol parce que les arbres, là, ils ont eu à peu près 10 000 ans pour s'adapter dans la région. On appelle ça édaphique. Édaphique, ça veut dire je suis dans le bon sol. Non, je ne suis pas dans le bon sol. Je m'a crevé, je m'a aller repousser ailleurs.
OK, c'est ça. Il essaye, puis c'est pas à bonne place.
S'il n'est pas à bonne place, là, comme tu vois
c'est
pas.
C'est l'adaptation.
Tu vois pas un chêne dans une swamp de cèdre. Ça existe
non,
pas.
Non, OK.
Puis le dernier, c'est les montagnes. Nous autres, on est dans les montagnes Laurentides, les Laurentiennes.
Mm-hmm.
Puis le monde ne savent pas, mais on est la plus vieille chaîne de montagnes au monde.
Oui, les Laurentides, c'était haut comme l'Everest à l'époque. Là.
C'est ça, on t'a vu le même reportage.
<C'est ça. rire>
Je l'ai vu deux fois, c'est le fun. Ça s'appelle Québec. 5 milliards d'années. Fait que c'est la plus haute chaîne, la plus vieille chaîne de montagne. Mais après 5 milliards d'années, après 5-6 glaciations, puis des vents, puis du froid, toute la roche a craqué, ça lui a donné du sol. Fait qu'on a du sol des montagnes d'autres. Il y a beaucoup d'autres montagnes au Québec, au Canada. Il n'y a pas de sol. Tu rentres dans la montagne avec ta pelle mécanique, tu grattes, tu n'es pas capable de te faire un chemin. Mais ça, on a beaucoup de sol parce qu'on a de l'acier qu'on a déposé. Et la roche elle-même, de 5 milliards d'années...
Son érosion s'est installée
autour. Une érosion naturelle. Fait qu'on a beaucoup de sol de montagne. Puis en gros, au Québec, ce sol-là, il s'appelle Gatineau.
Bon, on fait ça simple.
On fait ça simple. Mais il s'appelle Gatineau aussi ailleurs.
Ben oui, ben oui.
Dans le bout de Québec, les chaînes... Les...
Bon, donc ces trois types de sols-là font en sorte qu'on a des particularités ici. Puis tu parlais des activités humaines.
Oui.
Parce que là, l'humain a planté des affaires.
Jusque-là, c'est pas de notre faute. Là.
Non, c'est ça.
Mais les trois prochaines activités, c'est vraiment de notre faute, par exemple. On n'est pas des mauvaises personnes, mais on a vraiment sucé longtemps la forêt.
OK.
Le défrichage, quand on est arrivé entre 1850 et 60 dans la région, 120, 130, 140 ans, on a défriché les meilleures terres. Fait qu'on est parti avec presque 100% des peuplements de feuillus. Puis après ça, ça nous a tenté de les abandonner à partir des années 60. On a abandonné 50% des terres. Qu'est-ce qui repousse quand c'est abandonné? C'est pas de l'érable.
C'est du bouleau, tu me disais?
Ben, du bouleau, du peuplier, du sapin. Fait qu'on a créé une forêt mélangée, jeune, après avoir coupé une forêt très, très, très centenaire, quasiment vierge. On l'a toute coupée. Il y a des régions, la région de Montcerf, Montcerf-Létune en entour, c'est la place au Québec qui a le plus de terres abandonnées.
Okay.
Et le plus de friches au kilomètre carré.
Oui, qui donnait des terrains en friche littéralement.
C'est pour ça que je donne beaucoup d'exemples qu'on peut planter du saule à Montcerf. Oui. On peut planter des affaires. Finalement, c'est la mer Champlain, des sites extraordinairement riches, abandonnés. Fait que l'activité humaine a fait passer de quelque chose de très riche au niveau des arbres à quelque chose de très, très pauvre. Une friche, ça va prendre 100 ans avant de revenir une forêt. Ça va passer par tous les stades d'évolution.
Tranquillement. Là, Denis, on comprend pourquoi notre forêt a l'air de quoi elle a l'air, que cette grande forêt contient plein de petites forêts, qu'elles soient sur le bord d'un lac, au bord d'un fossé, ou d'une route ou d'un terrain abandonné. C'est un avantage ou c'est un inconvénient, cette forêt-là, pour nous, dans la vallée de la Gatineau?
C'est les deux.
Il faut savoir bien s'en servir, c'est un peu ça.
Mais les deux, c'est positif. C'est un avantage au niveau de la diversification écologique. Plus tu es diversifié, moins il va t'arriver de problèmes. Il n'y a presque pas de possibilité d'avoir des grands feux, des grandes épidémies, des grands coups de vent. On est très diversifié, autant pour la faune que la flore. Malheureusement, au niveau strictement forestier, c'est un défi. Parce que plus ton peuplement est petit, plus c'est difficile d'aller chercher une prescription sylvicole. Ta machinerie, tu bouges ta machinerie. Fait qu'on a peut-être, mais c'est de ne pas exagérer, entre 10 et 20 de frais supplémentaires à cause que ta forêt est très diversifiée. Tu n'arrives jamais dans un grand chantier de 100, 200, 300 hectares avec la même sorte. Je disais l'autre fois, il y a facilement 14 ou 15 essences différentes quand tu fais un chantier forestier.
C'est beaucoup.
C'est beaucoup. C'est peut-être à l'industrie à s'adapter. On parlait des rémanents rebuts la dernière fois. Fait que c'est très positif en général. Moi, j'aime bien vivre dans une forêt mixte.
Bon.
Mélangé.
C'est ça, mélangé. On l'appellera comme on voulait, comme on voudra. Ça nous aide à mieux comprendre cette forêt qui nous entoure. Peut-être à la regarder différemment quand on va aller en randonnée au printemps ou cet été, puis de comprendre comment elle a été forgée.
Mais comme tu disais, quand tu te promènes dans les sentiers du Pérou un peu partout, c'est pas long. À toutes les trois minutes, tu changes de peuplement. Là.
C'est vrai.
Même quand tu penses que c'est pareil, tu fais une montagne. Quand tu arrives en haut, c'est plus de l'érable, c'est du chêne. Puis quand tu redescends, c'est du merisier puis du bouleau blanc. Fait que toi, tu penses que tu es dans une forêt feuillue, mais tu as fait 5-6 peuplements différents. Fait que le traitement sylvicole, d'aménager une chênaie puis d'aménager une érablière, c'est pas pantoute pareil. Là.
Fait qu'il faut en tenir compte.
Faut en tenir compte.
On salue tous nos travailleurs du bois puis les industries qui sont à l'écoute puis qui doivent travailler avec ça. Et là, ben dans deux semaines, Denis, on va parler d'aménagement des forêts, mais aménagement faunique.
Oui, ça porte deux noms. Ça porte forêt faune ou aménagement faunique des forêts. C'est toute l'activité. Pendant que tu fais une opération forestière, qu'est-ce que tu peux faire pour la faune?
Parce qu'elle est là.
Elle est très diversifiée. Le monde reste surpris. Il n'y a pas un gibier qu'on n'a pas ici. À part des gibiers subarctiques, là, la perdrix blanche, mais à part de ça, on a tous les gibiers qu'on a besoin. Fait que, par contre, l'aménagement des forêts peut nuire. Il y en a qui disent « Ah, t'es coupé dans mon bois, il n'y a plus de gibier. » Je m'excuse, là, il y en a plus. Mais si tu coupes comme il faut avec certaines bonnes prescriptions, tu vas avoir plus de chances de trouver, de le photographier ou de le chasser.
Puis on en reparle dans deux semaines dans de Nicoté. Merci beaucoup.
C'est beau. Bye-bye.
Cette chronique vous a été présentée par l'entreprise Branche d'or. Retrouvez-nous au 261 route 105 à Messines et sur laboutiquedusommet.com.